Les podcasts d'AFDS.TV, les suppléments d'Aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les entretiens d'AFDS, Alexandre Marlier.
Bonjour à tous, Sophie Covesbrun et Erwan Ogoyard sont scénaristes. Après avoir réalisé le court-métrage Dedans Dehors en 2004, ils ont tout de suite eu envie de se tourner vers la série télévisée. On les retrouve notamment sur la dramédie 7e ciel Belgique pour la RTBF, mais aussi sur le soap français Seconde Chance pour TF1. En 2009, ils démarrent leur collaboration avec Marc Huytendaal, avocat constitutionnaliste belge, qui a écrit le pilote d'une série basée sur des faits divers réels qui ont plus ou moins secoué le royaume. C'est le début de l'aventure à tort ou à raison. La série met en scène un policier, une avocate, une juge d'instruction et un chroniqueur judiciaire. Les quatre personnages se côtoient bien entendu pour leur boulot, mais sont également amis dans la vie, ce qui pose évidemment parfois certains problèmes. La RTBF a coproduit jusqu'à présent deux saisons de la série judiciaire au format assez particulier et original. Chaque affaire se déroule d'office durant deux épisodes de 52 minutes et est donc bouclée au terme du second épisode. À noter qu'un double pilote a d'abord été produit et diffusé avant que la suite ne soit commandée. C'est à l'occasion de la présentation presse de cette nouvelle salve de la saison 1 qu'Héloïse Rouard et moi-même avons rencontré les deux scénaristes. Nous leur avons demandé comment s'est déroulé le travail au niveau du scénario.
Ça a été un travail assez excitant, assez enrichissant, assez ambitieux aussi.
Il y a eu le pilote qui a été diffusé, donc on cherchait encore notre marque sur comment construire un épisode, comment équilibrer la vie des personnages et l'enquête dans laquelle ils sont, sachant qu'il y a quatre beaux personnages. Pour nous, c'était un peu des bons problèmes, c'est-à-dire lesquels voir le plus ou le moins et puis réussir à faire exister leur amitié. Donc je pense qu'on a vraiment, sur cette première saison, essayé de trouver cet équilibre, je ne sais pas si on a réussi, entre l'affaire qui a inspiré en plus de faits réels, leur amitié à quatre avec leur passé qui doit quand même intéresser normalement les spectateurs, leur drame qui les a soudés autour de cette maison. Et à chaque fois, on essaye de faire des affaires avec des couleurs assez différentes, essayer de pas de faire une répétition, mais plutôt à chaque fois décliner des univers. Ça, c'est l'ambition. Après, ce que vous avez ressenti, nous ne savons pas.
Le travail a quand même été un peu différent par rapport au premier épisode qui avait été diffusé, puisque Marc Huytendaal était peut-être moins impliqué.
Je pense qu'il avait moins de temps, et puis que comme c'est une série qui doit être faite après, quand il y a une commande comme ça sur 6 épisodes avec des dates, bon, on se répartit le travail différemment. Ce qui est super, c'est l'énergie qu'on a de garder la même équipe, les mêmes comédiens, et c'est vraiment un travail, on sent l'énergie. Et même si on n'a pas les moyens de séries comme HBO, il ne faut pas trop nous comparer à des choses où ils sont 12 et ils ont des gros cerveaux et nous, on n'est que 3 avec des petits. Mais on est assez fiers d'avoir réussi à faire les 6 en temps et en heure et surtout du casting, quoi, d'avoir eu un casting comme ça et de tourner dans Bruxelles.
Justement, pour en revenir sur le choix de l'affaire, comment ça s'est fait en fait? Comment on choisit de partir sur telle affaire plutôt qu'une autre?
Sur Sainte-Maxime, Marc avait commencé à réfléchir et l'idée, comme on s'était dit, c'est d'en avoir 3 affaires très différentes. Donc je pense que c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est-à-dire essayer de trouver des intrigues qui vont se développer différemment. Donc c'est sûr qu'entre la traite des êtres humains dans le milieu de la construction à Charleroi, Sainte-Maxime, une affaire de mœurs, et la troisième dans le milieu des extrémistes, c'était ça en fait. Donc après, malheureusement, les faits divers, c'est atroce de voir que dès que t'ouvres la porte, t'as plutôt trop que pas assez. Et évidemment, par respect aussi pour les gens qui sont impliqués dans les affaires, il s'agit pas du tout de coller au plus près, au contraire, on lit, on essaie de surtout pas s'enfoncer dedans, et puis on garde, et puis après c'est des discussions aussi avec la production, aussi en fonction de du calibre de la série, parce qu'il faut voir que c'est une écriture. Nous, avec Erwan, on vient de la série, on est formé sur du 52, on a aussi travaillé sur du 26, mais c'est très particulier, parce que vous, qui sommes spécialistes des séries, vous voyez, c'est du feuilletonnant, il faut que les gens reviennent, il faut qu'on travaille en strat avec des intrigues qui doivent se boucler, d'autres qui se continuent, donc c'est à la fois important, l'affaire qu'on choisit, mais à la fois, elle doit surtout permettre de tenir et de s'arrêter. Que quand Maxime s'arrête, t'es à la place pour autre chose. Et en même temps, t'as pas l'impression de revoir l'éternel, même si les experts fonctionnent comme ça, où hop, il y a un cadavre et pouf, ça commence. Nous, on essaie de faire un peu autre chose.
C'est presque un prétexte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps se souvenir quand même que cette série, c'est une série judiciaire. Donc, elle doit poser des questions sociétales, sans être trop prétentieux non plus, mais des questions populaires et sociétales sur ce qu'est la justice maintenant aujourd'hui, déclinable à travers 3 ou 4 métiers différents. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'éviter vraiment le sensationnalisme, le voyeurisme aussi sur des affaires qui pourraient aller un peu trop loin. Là, sur le traitement de la pédophilie, pour nous, c'est assez flagrant. On essaie de trouver une limite qui soit pas trop putassière, entre guillemets. Donc voilà, c'est arrivé à chaque fois en fin d'épisode à se faire poser la question, à tort ou à raison, entre guillemets, et de faire le point de vue de tous les protagonistes, mais des victimes ou des coupables, entre guillemets.
Personnellement, quand je vois la construction sur deux épisodes, ça me fait fortement penser à ce qui peut se faire sur New York District, c'est-à-dire la partie police et puis la partie judiciaire. Vous travaillez de cette manière-là quand vous écrivez ?
Oui, c'est évident, c'est évident. On a des envies par rapport aux personnages. Nous, on est obsédés par le sexe avec Erwan. Dès qu'on veut, on va mettre des sexes, du sexe, du sexe. Donc, il nous arrête. Arrêtez le sexe, on ne peut plus. Non, mais donc, il y a la partie sentimentale. Il y a les enfants, leur petite famille, chacun. Donc, c'est vrai que ça, c'est... On veut raconter des choses sur nos personnages. C'est pour ça que scénariste de série, c'est le mieux. Parce que tu peux te faire plaisir sur une durée, je trouve, en tout cas, par rapport à des unitaires. Et donc, c'est vrai qu'on travaille exactement comme ça, avec les intrigues. Et puis après... connecter chaque personnage, ça c'était le plus difficile sur cette saison-là. Chaque métier, journaliste, juge, flic et avocate, sans que ça fasse toujours « Ah bah, t'es encore là toi, il y a 3 avocats dans la ville, mais il y a 4 journalistes ». Donc ça, bon, c'est un peu la règle du jeu, il faut accepter.
Sans pour autant que ça ait l'air forcé.
Donc on espère que ça fait pas trop forcé. Au bout du 6e, vous avez l'impression que « Eh, dis donc, t'as pas un autre copain qui peut faire... » D'ailleurs, en saison 2, on travaille un peu... Enfin, on dévoile pas, mais je pense que voilà, il faut aussi pas lasser les gens sur la manière dont ça arrive, quoi.
On a le bonheur, enfin le plaisir de travailler sur une série qui est pas si identifiable que ça. C'est-à-dire quand on nous a demandé les recettes ou quand on s'est posé la question à un moment, tiens, s'il y avait d'autres scénaristes qui venaient travailler, il y a pas de recette véritablement, c'est assez. Donc c'est vrai qu'il y a des rythmes d'épisodes qui sont plus psychologiques, d'autres rythmes qui sont plus... Et c'est pareil, il y a aussi par exemple la scène de la fin sur la fête, on prend quand même 10-15 minutes de cet épisode-là pour raconter un truc privé, donc il y a presque une interruption au milieu. C'est des libertés qu'on aime pouvoir s'octroyer, et ça c'est assez chouette qu'on soit tous d'accord dans l'équipe, avec la production et avec la chaîne, pour pouvoir s'autoriser ça.
Et surtout, un réalisateur qui a monté le niveau, pour nous c'était la rencontre sur cette saison, c'est Alain Brunard qui fait vraiment, en tout cas, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, le scénariste s'arrête là, puis après ça reprend. Je sais pas comment vous l'avez perçu, mais je trouvais que justement il laissait la place à l'intime, il le défendait bien, des belles scènes de sexe.
Pour moi la scène du bistrot, quand Yvan et Joël discutent ensemble, est assez flagrante là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la temporalité de notre écriture qui est retranscrite à l'écran, et ça c'est assez agréable, c'est très satisfaisant pour nous scénaristes de voir qu'on a vraiment une adéquation sur certaines scènes ou sur plein d'idées, et un plaisir pour lui aussi de traiter la psychologie des personnages, c'est hyper agréable, c'est très chouette.
Est-ce qu'on a quand même pas tendance, avec un beau groupe de personnages, parfois peut-être tendance à privilégier plutôt l'un que l'autre? À travers ce qu'on a pu voir, j'ai l'impression que Bernard Diès est un petit peu au-dessus. Est-ce que c'est vraiment une volonté? Est-ce que c'est un personnage qui prend malgré tout de la place? Enfin, il est assez charismatique. Est-ce que ça a été une volonté?
C'est sur cet épisode, hein, je dirais. Parce que vous allez voir... Parce que vous êtes obligé de regarder la suite à la maison. Ça, je vais vous dire tout de suite. Comme c'est le flic, dès que ça commence par un acte, on va dire, un vandalisme, là, on rentre avec lui. Et c'est quand même une histoire banale de tag. Il faut voir que dans leur univers, c'est quand même pas le gros truc. Donc là, on a un peu traîné avec...
Mais c'est vrai que c'est un peu les problèmes qu'on a eu scénaristiquement parlant, qui sont pas des problèmes, mais les enjeux qu'on a eu à mettre en place sur quand faire intervenir les personnages. Et c'est vrai que là, il y a une facture assez classique d'un début d'enquête qui commence assez lentement, et ensuite, effectivement, quand est-ce qu'intervient l'avocat.
C'est la juge qui ouvre l'histoire, et après, Florence Colla, sur le dernier, il y a quand même toute une partie... Enfin, on raconte pas, mais on était conscient, évidemment, de cet équilibre-là à gérer.
Il y a une chronologie judiciaire qu'il faut respecter aussi, donc c'est évident qu'ils interviennent tous au fur et à mesure, chronologiquement, enfin dans la vraie vie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on a eu conscience, effectivement.
Au niveau de votre boulot de scénariste, comment ça se passe de travailler comme scénariste bicéphale, même tricéphale, quelque part?
Oh, c'est hyper bizarre cette question.
C'est les frontières de la série, tu sais. On fait des blagues à chaque fois, on dit elle fait les voyelles, je fais les consonnes, on va arrêter de faire la blague, on va plus la refaire. Non, on se connaît depuis 15 ans, on travaille depuis 15 ans ensemble, en fait. Donc on a appris ce métier-là ensemble, c'est assez... ouais, c'est bicéphale, c'est...
tout seul, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Comment ils font pour faire les dialogues? Qui fait les blagues? Comment...
C'est très stimulant, parce qu'en fait, on a quand même ce truc où on teste nos idées d'abord, ensuite on teste les dialogues une première fois ensemble pour voir si ça fonctionne, on se connaît suffisamment pour pas avoir d'ego, et quand il y a une idée qui marche pas... Voilà, donc il y a un truc quand même, à un moment on ne sait plus voilà, d'où est venue l'idée, qu'est-ce qui est arrivé. Voilà, on est mégalo pour deux.
Ah non, je crois pas, non, parce qu'on l'a testé à la maison celle-là. Donc, non mais il faut voir que série, quand même, il y a peu de gens finalement, là ça commence à venir, mais des gens qui voient aussi l'intérieur des séries. Scénariste, c'est quand même un métier de chien hyper laborieux où tu passes ta vie à réécrire, mais nous on est sur des V12, V13. Être deux, ça me paraît le minimum syndical, et normalement, t'es quand même, nous on a travaillé sur des grosses séries, on était 15. Donc il me semble, mais après c'est vrai que le binôme tel qu'il est, Bon, sur une série comme ça, ça me semble... Ouais, vaut mieux être deux, parce que sinon, je vois pas... Mais c'est un style, c'est vrai que...
Non, c'est un style, mais ça, c'est vrai que c'est un boulot hyper collectif, ça va sembler un peu léger de dire ça, mais on a vraiment bossé avec Rosanne, la productrice, avec Arlette aussi de la RTBF, qui est là à toutes les réunions, avec Ed, notre conseiller au scénario. Donc, c'est vrai que ça... On est six...
Voilà,
non, mais je veux dire, c'est quand même un vrai boulot d'équipe, donc c'est pas vrai le mythe de l'auteur dans sa cave, tout seul, avec sa grande écharpe. Enfin, je veux dire, on fait un travail collectif qui va continuer à être collectif avec le réalisateur, donc on peut pas se draper dans de l'ego. Enfin, je trouve ça assez naturel de bosser à deux, en fait.
Je pense que ceux qui sont tout seuls ont un rapport, effectivement, à leur œuvre qui est très différente, parce que du coup, nous, on arrive, je veux dire, les réunions, vu les temps qu'on a sur l'écriture, t'as à peine fini ton texte que déjà, on t'explique que c'est nul. Donc, t'as intérêt à être deux, quoi. Déjà, t'as vu ce qu'elle a dit. Elle a quand même dit que c'était à chier. Donc, tu passes ta vie à faire des allers-retours constats. Si tu n'aimes pas le retravail en permanence avec des gens qui, quand même, notre conseiller à l'écriture, quand il dit quelque chose... C'est oui, chef, hein, on fait pas genre. Non, mais attends, je t'explique. Moi, c'est oui, d'accord, c'est ton job, t'es script docteur. En plus, on a une pointure. Donc, ça, c'est presque mieux qu'un autre scénariste, parce que du coup, ça fait des hiérarchies où on avance comme Alvin. Chacun amène, et puis c'est ce qu'il faut, à mon avis, pour faire de la série. Et toutes les séries qui fonctionnent, à mon avis, si t'as pas cette mentalité-là de collectif, tu te plantes. Et je pense qu'il y a des très bons scénaristes de long métrage qui se plantent en série, et inversement, des très mauvais qui arrivent. Hop.
Mais parce que là, on est aussi dans un contexte assez intime, où je veux dire, on travaille vraiment avec la productrice et avec la chaîne directement. Donc il y a aussi un truc où c'est hyper agréable d'avoir des personnes au bout de la chaîne qui sont aussi investies que nous, qui connaissent les personnages, qui les aiment, qui veulent les défendre. Donc c'est hyper agréable comme travail. On n'est pas dans un truc où on est obligé de se justifier, de rappeler la psychologie du personnage. On est dans un truc presque organique à quatre. Enfin, c'est vrai, hein, qui est très agréable.
Ah non, elle ne dirait pas ça à son mari. Chacun est habité. Quoi. Non, Joël ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça.
Et ça, c'est ce qui est chouette quand même dans ce projet-là. Il y a quand même une vraie motivation scénaristique, artistique, on va dire, qui est collective. C'est pas un produit.
C'est-à-dire que ce serait plus facile dans ce sens-là de bosser en Belgique que de bosser pour les chaînes françaises ?
Je crois que ça dépend vraiment des projets. Non, mais ça dépend vraiment des projets, de l'ampleur des projets. Nous, on a fait des projets très très commerciaux pour TF1. On était 15 scénaristes. Bon, mais c'était tout aussi rigolo à faire aussi. Oui. C'est un boulot complètement différent. Là, c'est vrai qu'on trouve vraiment notre compte, nous, parce qu'il y a quand même un bon compromis entre quelque chose d'artisanal et un produit télévisuel, parce que c'est quand même ça reste un produit télévisuel, c'est d'être vu, c'est d'être populaire, accessible. Ça, c'est donc on est dans un super compromis pour nous. Nous, on y trouve vraiment notre compte.
Quand on a fait nos courts-métrages, après, nous, on voulait faire de la série télé. On n'était pas du tout dans ce truc, je fais mon court-métrage, je fais mon premier long-métrage. Et c'était génial aussi. Mais du coup, on est vite parti là-dessus avec Erwan. Aussi, peut-être parce qu'on était en deux, ben, on était là-dessus. Et c'est vrai que quand on travaille pour d'autres expériences, des projets, on a eu la chance de travailler avec Tony Marshall sur un projet de série qui ne s'est pas fait pour France 2. Mais la série, c'est une bulle, c'est quelque chose. Et maintenant, on essaie de se professionnaliser parce que je pense que c'est un savoir-faire. Hein. Donc, il faut juste apprendre et être compétitif. Mais... non, mais parce que c'est vrai, je pense que c'est... Voilà. On sait où on va quand on travaille chez TF1 pendant un an. On apprend une autre technique d'écriture. On était responsable d'une partie des dialogues, du lissage. C'est des techniques américaines qui marchent très bien, qui sont parfaitement exécutées. Et quand t'as fait un an là-dessus, ben, t'as appris un nouveau truc, comme dans chaque boulot journaliste. J'imagine, c'est voilà. Chacun, nous, on a mis ça dans notre petit cerveau. On sait faire maintenant. Enfin, prêt, check, done.
Est-ce qu'il y a déjà des projets futurs pour la série ? Est-ce qu'il y a déjà des demandes ?
Universal a acheté... ça, on ne doit pas le dire. Il y a Sharon Stone, enfin bon...
Sharon,
puis nous, bien sûr, comme scénaristes. Ils ont demandé d'abord nous, comme scénaristes. La saison 2 est en écriture, ouais. donc, on est en train de l'écrire,
après,
on travaille.
Et selon l'audience, comme toujours dans ce milieu de chien.
Avec, pareil, il y a un perfectionnement sur ce qu'on a vu aussi. Essayer de voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont être plus précises sur la 2, qui sont assez excitantes en tout cas pour nous.
On a des super univers, pareil, on a essayé de faire des univers très différents, on adore. Après, voilà, il faut que ça se fasse, faut que...
Ça marche.
Ouais, voilà. C'est un peu comme ça, quoi.
Et vous l'aurez compris, une saison 2 a ensuite été commandée, diffusée en 2013. L'occasion pour nous de revoir les deux scénaristes et leur demander quelles évolutions avaient été apportées pour cette saison 2.
On a travaillé différemment, ça veut dire qu'on a construit en fait chaque affaire autour plutôt d'un des personnages principaux, plutôt que ce qu'on avait comme défini dans la saison 1, c'était les quatre au même niveau. Donc là, on a quand même fait un épisode, à part le personnage de l'avocate, mais sinon ils ont tous une affaire où c'est un personnage qui est plus mis en avant.
J'ai l'impression par rapport à la saison 1 que vous avez un peu plus poussé... l'histoire des personnages, leur côté familial est plus poussé.
Effectivement, justement, cette nouvelle méthode de travail-là nous a permis aussi d'avoir un tout petit peu plus de temps pour raconter du privé. C'est-à-dire que de faire rentrer quatre personnages dans une affaire et faire qu'ils ont un rôle aussi important était assez complexe dans la saison 1. Là, dans la saison 2, vu qu'on mettait en lumière un personnage principal, on pouvait se permettre de creuser un peu plus. Et puis après, c'est vrai que sur l'affaire que vous avez vue, l'affaire Hippocrate, on tourne autour de la juge Lance. Donc c'est l'occasion de vraiment fouiller dans ses démons, dans ce qu'il a à travail, dans les paradoxes de son travail. Donc effectivement, c'est une manière de fouiller un peu plus dans chaque affaire, le personnage...
On sent une vraie évolution, la série stagne pas, on sent que les personnages évoluent aussi, on voit que le personnage Olivier Mine a une promotion, on voit que, on a vu ici dans le Coming Next qu'il risque d'y avoir des changements au niveau du cabinet de la juge. C'est plutôt pas mal de se dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui stagne et que les personnages ont une histoire qui bouge derrière.
Ce qu'on voulait, alors vous allez voir si vous regardez la suite, c'est vraiment de faire déjà des affaires avec des couleurs très différentes. Donc là on va dire qu'il est plus lent, plus lancinant, parce que ça, en fonction aussi du personnage, de son tempo personnel. Évidemment, celui qui est consacré à Olivier Mine dans les médias est très dynamique, le dernier, et celui du personnage de Marensart au milieu, plus polar. Donc ça permet, en tout cas en point de vue auteur, de à chaque fois se mettre un nouveau défi plutôt que de s'installer et de faire une recette où c'est des séries où tu es plus dans une... dans un truc où les gens retrouvent exactement et même les points d'entrée. Et bon, c'est un risque, hein. Ouais. On verra.
Effectivement, on a essayé de créer pas mal d'événements, en tout cas, pour la vie privée des personnages. Je pense que le téléspectateur est aussi habitué à ce que ça aille plus vite. Maintenant, on n'a pas besoin de s'étaler très très longtemps.
Nous, les retours qu'on avait des spectateurs, c'est qu'ils étaient vraiment intéressés, surtout la famille de Joël qui est au centre, vu que ses enfants aussi sont dans l'histoire. Donc on essaye aussi de faire au mieux pour valoriser ce qui avait marché dans la saison 1 et corriger ce qui ne marchait pas. On verra.
Quelle a été l'implication de Mark Huntendahl dans cette seconde saison au niveau de l'écriture ?
Il a donné l'impulsion de la première histoire, l'affaire Hippocrate, qu'on a adaptée ensuite. Et sur les deux autres affaires, ce sont des histoires qu'on a créées, nous.
Il y a une suite qui est prévue ou bien c'est encore point d'interrogation ?
Mais le point d'interrogation est là et nous, on attend le coup de fil.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.